Et ce matin encore, on s'intéresse au système de santé calédonien. Bonjour, docteur Thierry de Gréland.
Bonjour, Nicolas.
Vous êtes président de la commission médicale d'établissement du CHT. Merci d'être avec nous. Au lendemain de ce cri d'alarme de l'hôpital, vous dites qu'il est gravement fragilisé. Alors, qu'est-ce qui se passe, docteur?
Alors, depuis le 13 mai, le départ de 100 infirmières, enfin 110 infirmières du CHT, mais aussi de personnel paramédicaux dans le Nord, à la clinique, on réduit nos capacités d'accueil des patients, puisqu'il faut une infirmière pour s'occuper de 10-12 patients. Donc le fait d'avoir moins d'infirmières nous a obligés à fermer des lits. Donc actuellement, c'est presque 40 à 45% des lits d'offres de soins d'hospitalisation conventionnelle qui sont fermés sur l'ensemble du territoire, ce qui évidemment est dramatique, puisque aujourd'hui, les Calédoniens, et je trouve ça très bien sûr, reviennent à la consultation, reviennent aux urgences.
Alors, on a souvent parlé de la difficulté d'embaucher des médecins, notamment des spécialistes. Là, ce sont vraiment les postes d'infirmiers qui sont vacants.
Alors, malheureusement, ce sont les deux. Ce sont les infirmières qui gèrent les patients en hospitalisation. Les médecins produisent le soin aussi, mais d'une autre manière. Donc, c'est vrai que la fermeture des lits, c'est lié aux infirmières. Nos aides-soignants sont présents. Ils sont, pour la plupart, pour l'immense majorité d'entre eux, des gens du Pacifique, du territoire. Et donc, on n'a pas de perte d'aides-soignants. Quelques arrêts maladie par fatigue, parce que le travail est intense. Mais ce sont vraiment les infirmiers qui sont à l'origine de ces fermetures de lits et qui nous mettent dans des situations extrêmement compliquées, puisque les patients attendent aux urgences la possibilité d'être hospitalisés. Et ça, c'est tous les soirs depuis plus d'une semaine.
Justement, j'allais vous demander comment ça se manifeste pour les patients. Concrètement, on a des brancards dans les couloirs, c'est ça?
Alors voilà, on a des brancards pas seulement dans les couloirs, mais aussi dans la salle d'attente qui normalement sert à asseoir les familles en attendant que le patient ressorte des urgences. Donc là, on a des brancards, jusqu'à 10-12 brancards on a eu ces derniers jours, cette nuit 5. Donc les patients attendent. On a un patient qui attend depuis 11h hier matin. Donc ça, c'est inadmissible. C'est vrai qu'on peut voir cette situation en métropole dans certains hôpitaux, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Et on n'avait jamais connu ça en Nouvelle-Calédonie depuis que l'hôpital existe. Une telle différence entre l'offre de soins et le besoin des patients, ça c'est très difficile pour nous.
Est-ce qu'aujourd'hui les patients, les Calédoniens en règle générale, sont en danger?
Alors, je veux affoler personne, et puis c'est une situation qui est transitoire, mais transitoire prolongée. C'est-à-dire que 2025, même si je suis quelqu'un de très optimiste, va probablement pas voir tout de suite cette solution se régler. Il faut du temps pour recruter des personnels infirmiers. Comme vous le savez, malheureusement, au cours des émeutes de mai, l'école d'infirmières a été détruite. Les infirmières, là, cette année, vont sortir avec quelques mois de retard, donc elles ne seront pas disponibles tout de suite. Les promotions suivantes ne vont pas l'être non plus. Donc, il faut du recrutement hors Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas recruter les infirmières. D'ailleurs, on leur propose de venir, mais les infirmières libérales, parce qu'on a aussi besoin d'infirmières dans le libéral, elles sont aussi en difficulté. Donc oui, c'est compliqué. En danger, non, parce qu'on va continuer à offrir une offre de soins adaptée. Nos spécialistes sont là, tout le monde est mobilisé. Je salue le travail de chacun. Là, on fait vraiment au mieux. Et c'est surtout que les équipes sont fatiguées. Dans le Nord, c'est exactement la même chose. Aux urgences, il y a des brancards qui attendent aussi les patients, parce qu'on ne peut pas les hospitaliser. Les gens n'en peuvent plus de travailler dans ces conditions.
Alors, hier, vous avez alerté sur cette situation. Vous avez parlé évidemment du Medipôle, mais pas que. Vous avez aussi alerté sur la situation dans le Nord, qui est presque plus dramatique.
Oui, alors, au niveau du CHN, c'est quasiment 50% des lits qui sont 65% des lits autorisés qui sont fermés. Donc, au niveau de l'hôpital de Conné, c'est quasiment 50%. Tous les lits de Pointe-d'Imier sont fermés. Il y avait 44 lits. Il y avait 19 lits pour hospitaliser les malades en médecine. Ils sont fermés. À Koumak, il y avait 14 lits. Ils sont fermés. Donc, tous ces lits-là sont fermés. Et c'est vrai qu'on n'a plus de médecins disponibles sur la côte Est. Donc là, c'est une vraie urgence sanitaire parce que l'offre de soins n'est pas à la hauteur des besoins des malades qui sont nombreux et très malades.
Alors, au-delà du constat, vous faites un certain nombre de propositions pour régler ce problème. Il y en a quatre, il me semble, principales.
Alors oui, je voulais dire que juste avant de passer aux propositions, oui, que cet état des lieux, il est le même en libéral, il est le même à la clinique. Hein, il y a 90 lits qui sont fermés sur 200, donc c'est vraiment pas, ça touche toutes les professions, ça touche enfin, toutes les dimensions des postes d'infirmières sur le territoire et de médecins aussi. Donc voilà, et ça a des conséquences sur l'offre de soins aussi chirurgicales puisque les blocs opératoires sont fermés. Voilà, ça a des conséquences en psychiatrie, au CHS aussi. Voilà, je veux oublier personne parce que il y a vraiment, voilà, on a ce cri d'alerte, il est lancé avec un peu de retard. Et on aimerait bien, maintenant que l'épidémie de grippe est présente et qu'elle va durer quelques semaines, qu'il y ait une réaction, évidemment, du gouvernement. Sa première proposition, il faut qu'on puisse discuter avec la DAS et on va le faire dans une heure et demie. Avec l'ensemble des forces du territoire qui s'occupent de la santé pour trouver des solutions innovantes. Ça, c'est discuter, dialoguer et puis proposer. On a déjà travaillé sur des propositions depuis plusieurs mois. La deuxième chose, c'est qu'il faudra peut-être du soutien d'ailleurs. Donc ça, il faut voir comment on l'organise parce qu'on sait que la réserve sanitaire, ça ne fonctionne pas bien et que les gens ne sont pas disponibles aujourd'hui, peut-être mobilisés sur d'autres endroits importants, mais... Aujourd'hui, on a vraiment une situation sanitaire qui justifie qu'on se bouge très vite.
Alors, si la réserve sanitaire n'est pas très efficace, ou en tout cas coûte cher, etc., et vient pour des périodes limitées, quelle solution existe par ailleurs ?
Alors, je vais en discuter d'abord avec l'ADA, si vous voulez bien, Nicolas, parce que nos solutions ne sont peut-être pas celles qui vont être retenues. Je voudrais laisser la liberté à notre nouveau gouvernement de prendre ses responsabilités dans ce domaine et aussi au SARIA, parce que là j'en appelle aussi à l'État, hein, bien entendu. Voilà, ça concerne l'ensemble des Calédoniens et la sécurité des personnes quand même. Ne pas pouvoir être soigné en pleine nuit, voilà, quand on habite sur la côte Est, c'est pas normal, hein, en France. Voilà, on a des solutions, nous, en interne, qu'on a déjà mis en place, hein, sur les recrutements. On recrute des médecins étrangers, mais on ne recrute pas d'infirmières à l'étranger, parce qu'on n'a pas cette possibilité-là. Donc, on ne peut même pas recruter un kinésithérapeute qui a été calédonien formé en Espagne. Donc, vous voyez, il y a des choses qui doivent être faites sur le plan politique, avec des réformes très rapides qui peuvent nous permettre d'ouvrir notre bassin de recrutement. Là, on peut le faire déjà pour les médecins, mais l'urgence, elle est plutôt aux infirmières.
Alors, on sait que le CHT communiquait beaucoup, travaillait beaucoup sur la question de l'attractivité pour essayer de recruter les personnels soignants. Aujourd'hui, après le 13 mai, je suppose que c'est encore plus difficile de recruter des médecins, des infirmiers, ce soit en métropole ou à l'étranger.
Tout à fait, en sachant que c'est comme une grossesse, le recrutement d'un médecin, c'est 9 mois minimum, hein, parce qu'il faut s'y prendre en janvier pour en novembre. Donc... pour les infirmières, c'est plusieurs mois aussi. Hein. Elles sont pareilles, il faut arriver à les débaucher, organiser un voyage aussi loin, etc. Donc les statuts de la fonction publique hospitalière n'ont pas changé depuis plus de 20 ans. Le Ségur de la santé est passé en métropole et n'a pas été appliqué ici en Calédonie. Une sage-femme perd de l'argent quand elle vient travailler en Calédonie, clairement. Les médecins aussi maintenant, de plus en plus, avec les revalorisations métropolitaines. On a un effort qui a été fait très important par le Medipôle, et je remercie l'administration, notamment pour la reprise de l'ancienneté, pour les infirmières, mais elle n'est pas entièrement reprise, et pas dans toutes les spécialités. Donc tout ça fait qu'on essaye de se battre pour être attractif, mais il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, et des statuts doivent être changés. Le problème, c'est qu'évidemment, ça va coûter de l'argent. Donc ça c'est compliqué en ce moment.
C'est plus la question du statut que la question sécuritaire. On sait qu'il y avait eu beaucoup de médecins qui avaient été pris pour cible avant les émeutes, hein, notamment sur la côte Est, et qui avaient du mal à s'installer. On sait que la situation du Medipôle a été très difficile les premiers jours, avec un accès bloqué, des gens aux alentours et de grosses difficultés. Ça rentre en ligne de compte aussi l'aspect sécuritaire ?
Bien sûr, ne pas avoir des difficultés de recrutement, c'est pas... Il n'y a pas une seule raison, c'est multidimensionnel. Hein. Il y a effectivement les statuts, il y a la situation sécuritaire. Et évidemment, elle est en cause. Moi, je suis chef du service de neurologie. J'ai perdu deux recrutements qui étaient là pour 2 ou 3 ans, notamment une mère de famille neurologue à Rennes qui venait avec ses enfants et qui m'a dit « Non, mais c'est hors de question que je vienne travailler dans ces conditions ». Voilà, donc évidemment que la sécurité a joué beaucoup, a joué sur le moral des gens qui devaient venir et puis sur le moral des gens qui étaient déjà là. Hein, n'ont résisté que ceux qui étaient là depuis très longtemps et qui savaient que cette situation était transitoire et qui ont l'espoir que ça change une bonne fois pour toutes.
Alors vous avez évoqué cette épidémie de grippe. Vous lancez aussi un message aux Calédoniens par rapport à cette épidémie.
Oui, merci de me recadrer sur ce sujet. La grippe est en train de redémarrer. On a raté la prévention vaccinale. On n'a pas fait assez de campagnes, je pense, pour ça. Donc là, les gens arrivent aux urgences en phase de décompensation avec des dyspnées importantes, des difficultés respiratoires importantes, pardon. Et notamment les gens qui sont fragiles, âgés, diabétiques, insuffisants rénaux, etc. Donc il faut absolument poser la question aux pharmaciens de la vaccination. C'est encore possible de le faire. Il y a 3 souches virales qui circulent en ce moment et un peu de Covid aussi, comme toujours. Et là, il faut envisager rapidement la vaccination, mais surtout utiliser les gestes barrières. Faites attention quand vous avez le nez qui coule, au travail, mettez un masque. À la maison, lavez-vous les mains et puis voilà, respectez les gestes barrières vraiment entre vous, parce qu'il faudrait qu'on limite cette épidémie qui viendrait rajouter de l'absentéisme aux soignants et puis une surcharge aux urgences. Deuxième point, c'est essayer de ne pas venir trop aux urgences. Si vous pouvez en premier aller voir votre médecin traitant, voilà, c'est une démarche qui n'est pas toujours possible. Donc je le dis, mais je sais que de toute façon on prendra tout le monde aux urgences, mais voilà, c'est important peut-être d'essayer de décharger un peu les urgences en ce moment pour qu'on puisse se concentrer sur les malades les plus graves et pas perdre de temps sur leur prise en charge. Voilà.
C'est un peu le réflexe parfois de certaines personnes d'aller aux urgences, d'attendre un petit peu toute la journée et puis de venir aux urgences. Ça, c'est problématique pour vous ?
Oui, alors oui, c'est problématique. Et c'est problématique aussi parce que les gens s'agacent et qu'on peut les comprendre. Hein. Les temps d'attente sont vraiment inédits chez nous en ce moment. Donc, voilà, je suis désolé, navré, et merci pour leur patience, mais honnêtement, voilà, il faut qu'on priorise le passage des urgences vitales, évidemment, ce qu'on appelle de manière un petit peu délicate la bobologie. Bon, il n'y a jamais de bobologie vraiment, si les gens sont inquiets, donc... Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, ne pas venir aux urgences pour rien. Et les Calédoniens n'ont pas l'habitude de venir aux urgences pour rien, et si certains viennent aux urgences aujourd'hui, alors qu'ils ont pas des choses très importantes, c'est aussi parce que l'offre de soins du libéral s'est dégradée beaucoup, les généralistes sont surchargés de travail, il y a des CMS fermés, donc les gens, en désespoir de cause, viennent chez nous, ils viennent toujours chez nous à la fin, à un moment ou à un autre. Ah bon. Ils appellent le 15.
Vous le disiez, ils ne viennent pas pour rien, ils viennent même parfois trop tard, là aussi oui. C'est des messages à repasser, peut-être d'aller consulter assez rapidement avant que la situation dégénère.
Vous avez entièrement raison, c'est ça, c'est difficile de passer le message « venez pas aux urgences pour rien » alors que les gens souvent viennent avec des maladies graves en ce moment.
Un peu trop tard.
Un peu trop tard, en ce moment c'est même le cas, on a beaucoup de malades qui arrivent trop tard, il y a beaucoup de malades qui arrêtent les médicaments. Par exemple, les anticoagulants qui servent à fluidifier le sang, s'ils sont arrêtés, eh bien évidemment, ça provoque des thromboses. Donc ça peut être le cœur, ça peut être le cerveau, ça peut être des attaques cérébrales. Donc ça, il faut absolument poursuivre les médicaments. Il faut aller à la pharmacie, il faut refaire des ordonnances, trouver des solutions. Parce que on a beaucoup, beaucoup de patients aujourd'hui qui arrivent parce qu'il y a une rupture de prise en charge médicale, qu'ils ont arrêté les médicaments, qu'ils arrêtent le suivi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ils l'expliquent comment ?
Des moyens financiers, mais qui peuvent être mis aussi sur d'autres choses comme l'alcool ou la cigarette. Donc, mais des moyens financiers qui sont réduits, évidemment, dans la population. Un accès aux soins qui est plus difficile parce qu'il n'y a plus de médecins, que l'infirmière ne peut pas faire les ordonnances. Et puis aussi une résignation. Les gens se concentrent sur la nourriture, sur le logement, sur... Et puis, ils se consacrent moins d'argent à la santé, moins de temps aussi d'énergie. Donc, ça aboutit à des décompensations de maladies chroniques.
Merci beaucoup, docteur De Grelon.
C'est moi qui vous remercie. C'était des messages importants. Merci pour cette opportunité. Bonne journée.
Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de la commission médicale d'établissement du CHT.